Salut les cocos, c'est Peter dans vos oreilles, c'est Rouler Parler, et oui je ne me trompe pas, je ne vais pas dire que c'est devant l'ordi cette fois-ci. J'espère que vous allez bien. À chaque fois j'ai envie de dire oui, ça fait quelques temps, bon ça fait pas si longtemps que ça. Mais par contre ça fait un moment que j'ai envie de vous parler de quelque chose. À la base ça devait être une vidéo, et quand je vois le temps que je mets pour faire une simple vidéo, je me dis vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est surtout pour ne rien dire de spécialement mieux que ce dont je vais parler maintenant. J'adore faire, quand je fais comme un suspense au niveau du sujet du jour, alors que c'est dans le sujet, c'est dans le titre, c'est dans le titre de l'épisode. Je ne pouvais pas ne pas revenir à un moment donné sur le décès de Matthew Perry. Donc, je ne sais pas si je vais poster ceci ce soir ou demain. Vous en branlez ce soir ou demain, mais disons que là, nous sommes la veille. Nous sommes la veille du premier mois. Voilà, donc on va dire demain, si vous l'écoutez demain en tout cas, ou si vous l'écoutez à partir de mardi. Il y a un mois, Matthew Perry nous quittait. Et en fait, au départ, je voulais vraiment faire une vidéo, mais je voulais en faire un devant l'ordi, dans le sens où pour moi, il méritait quelque chose, mais voilà, ça fait déjà un mois. Je pense que des personnes beaucoup plus talentueuses que moi ont déjà fait ce qu'il fallait et suffisamment bien. Donc, je pense que je n'aurai aucune plus-value à ajouter à ceci, sous le format vidéo en tout cas, si c'est le fait juste de voir ma ganache, ça ne va pas servir à grand-chose de plus. Donc, je me suis dit qu'en finalité, bah, un rouler-parler, ça pouvait le faire. Alors évidemment, c'est pas préparé, j'ai pas un joli speech, c'est pas aussi construit que ce que j'aurais aimé, que ce qu'il aurait mérité. Mais voilà, j'étais obligé de revenir sur ce sujet à un moment donné, parce que c'est quelque chose qui m'a et qui me touche encore énormément. Déjà souvent parce que, comme on dit souvent, alors déjà, moi je suis quelqu'un d'assez sensible, d'assez touchy sur ce genre de choses. Je ne sais, on a beau me dire, mais tu, entre guillemets, tu pleures sur la disparition de quelqu'un qui ne te connaissait pas, effectivement. Mais j'ai ce rapport avec le cinéma, cet amour pour le cinéma de manière générale, pour la pop culture également, qui fait que j'ai énormément d'affect pour les comédiens. Alors en plus, quand le comédien me parle, entre guillemets, quand ce qu'il fait ou ce qu'il a fait ou sa personnalité résonne avec moi, avec mon existence, bah, ça me touche d'autant plus particulièrement. Il y a eu deux, trois disparitions comme ceci qui m'ont un peu plus affecté que d'autres. Je vais en oublier certainement, mais quand je repense à disparition, évidemment, j'ai toujours Robin Williams qui me revient assez rapidement. Robin Williams qui part l'année de mes 30 ans. C'était quelque chose. Robin Williams, ça représentait vraiment tout le meilleur des films des années 90, des films familiaux, drôles, grains de folie, en fait. Vraiment, Robin Williams, sans même évoquer les circonstances, ça a été incroyablement triste. Ça, c'est le genre de disparition qui marque et qui nous suit, en tout cas qui m'a suivi pendant vraiment plusieurs mois de manière assez dingue. Sinon, en termes d'artiste de manière générale, bon, bah, Chester Bennington, bon, on est encore sur du suicide, hein, c'est super joyeux. L'épisode d'aujourd'hui, pourrait ne pas être joyeux, mais je vais vraiment tenter de ne pas en faire quelque chose de négatif, en tout cas. Mais, enfin voilà, il y a ce genre de comédien. Alors bizarrement, alors que ça résonne moins de base au niveau de, voilà, comme un Robin Williams ou comme un Matthew Perry, comme je vais en parler un petit peu après. Mais par exemple, Paul Walker m'avait également assez surpris Parce que le décès était soudain, parce que c'était en plein tournage. Je me souviens qu'encore la veille ou l'avant-veille, on regardait des photos sur Allociné, des photos de tournage, Paul Walker et tout ça. Et c'est un truc bête, parce que Paul Walker, même s'il n'y a pas l'aura d'un Robin Williams, hein, faut pas se leurrer, il n'y a pas ce côté doudou par rapport à Robin Williams qui m'a suivi vraiment, entre guillemets, toute mon enfance. Mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte. Mais Paul Walker, c'était un petit peu la partie... c'était le côté cool guy, le gars cool qui malheureusement, évidemment, sera, même pour moi, cantonné à son personnage de Fast and Furious. Mais j'ai toujours cette image de lui, surtout pour le numéro 2, le Too Fast, Too Furious, dans lequel il était, lui, le lead, après le départ de Vin Diesel, qui en demandait trop, évidemment, mais il préférait garder du pognon pour mettre dans les bagnoles plutôt que dans les comédiens. Et ouais, Too Fast, Too Furious sorti en 2003, donc il y a 20 ans, mine de rien. Il est sorti il y a 20 ans maintenant. Et donc j'avais 19 ans, je commençais à rouler. Et je rêvais au volant de mon Opel Ascona. Je me rêvais Brian O'Connor au volant de sa Nissan Skyline GT-R, la grise et bleue métallique. J'étais une bagnole qu'on ne voit que... dans les 10 premières minutes du film. J'ai été voir 3 fois ce film au cinéma, bordel de merde, juste pour cette scène de début, parce que j'étais amoureux de sa Nissan Skyline. C'était un truc de fou furieux, quoi. Et donc c'était un peu le summum de ce mec à qui je voulais ressembler au sorti quelque peu de l'adolescence. Voilà, quoi. Évidemment, voilà, les cheveux longs ne m'allaient pas aussi bien que lui, j'avais pas la belle gueule comme lui, j'avais pas les yeux aussi bleus que lui, mais bon, il y avait aussi ce truc un petit peu d'identification, en tout cas de ouais, j'aimerais tellement être aussi cool et classe que lui, qui, je pense, qui a fait que l'affect a plutôt fonctionné, et c'est ce qui fait que j'avais, entre guillemets, quand même apprécié voir Fast and Furious 7 pour l'hommage rendu, voilà, même si c'est vrai qu'en reprenant concrètement les choses au niveau de ce film, il n'y a pas grand chose qui allait dedans. Et malheureusement aussi, le fait que j'ai toujours ce regard un peu plus technique que les autres, et toutes les scènes où ce n'était pas vraiment lui, ça me sortait un peu du film. En fait, j'ai vécu le film comme une longue procession vers la scène de fin qui rendait hommage à Paul Walker. En fait, donc pour moi, Fast and Furious 7, c'est même plus un film, c'est un truc tellement méta quelque part que voilà, le film en lui-même peut être aussi ridicule qu'on veut, le côté, il y avait quand même, je trouve, je me trompe peut-être, mais il y avait quand même une espèce de sincérité dans la démarche jusqu'à la fin de donner une porte de sortie au personnage, tout en rendant hommage à l'acteur, tout en évitant l'écueil de dire l'acteur est mort, il faut qu'on tue le personnage également en plein milieu. J'ai bien aimé le fait qu'il lui donne une happy end quelque part. Ça permet quelque part à l'acteur, à son image en tout cas, de rester en vie quelque part dans un coin imaginaire. Ce qui va résonner tout à l'heure, je pense, avec mon évocation de Matthew Perry, forcément. Alors j'ai appris vraiment j'ai appris la nouvelle de manière extrêmement comme un décès dans la famille. Hein, c'est triste à dire. Premier jour de mes vacances. Super bonne ambiance, donc je me lève, c'est le dimanche, hein. C'est dimanche, je me réveille comme une fleur vers 10h moins le quart, et forcément j'ai en tête ces personnes, Georges en tête, mon frangin qui était aux États-Unis, qui est encore aux États-Unis même à l'heure actuelle, ma sœur qui m'envoie aussi un message, je regarde et je vois, oh non, qu'est-ce qui... Oh, putain, vraiment désolé pour toi, nanana, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, puis je vois... En fait, en gros, c'est mon frère qui lâche le nom. C'est mon frère qui lâche le nom. Genre, ah, je sais à quel point M. Perry, tu apprécies M. Perry. Je me dis, oh non, c'est pas vrai. Il y a sûrement ce côté. Tu viens de te réveiller, t'as encore la tête dans le cul et tu te demandes ce qui se passe. Alors, Georges qui avait essayé de m'appeler une fois ou deux, je sais plus. Enfin, bref, qui avait essayé de m'appeler. J'étais vraiment encore en train de dormir, Georges. Je suis désolé. Et là, on commence à regarder les news et voilà, ça tombe comme une chape de plomb. C'est vraiment, le ressenti est vraiment comme un décès dans la famille à ce moment-là, quoi. C'est, euh, c'est presque indescriptible. Et c'est vrai que toute personne qui n'est pas forcément fan de films, de séries, ou qui s'en branle même de manière générale de la vie des stars ou quoi que ce soit, ça va pas forcément. J'ai mon téléphone qui sonne, qui vibre énormément, je suis désolé. Forcément, l'impression ou autre est un peu étrange et ne sera pas compris par tout le monde. Et je vous demande même pas à ce que ce soit compris par tout le monde, parce que c'est vraiment un état d'esprit assez spécifique. Quoi. Mais je passe un quart d'heure dans mon lit à scroller un peu partout sur Twitter, sur Première, sur qu'est-ce qui se passe et tout. Tu commences à lire un peu ce qui se passe. Et je me dis quelque part, ce qui est fou, c'est que je reçois les messages, je regarde en même temps, ça me perturbe dans ce que je raconte. Ah, c'est pas bien. Première règle du podcast, Peter, ne lis pas tes messages pendant que tu roules, sinon ça ne va pas. Du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais. Je suis vraiment une bille, c'est incroyable. Donc il y a ce moment de tenter de comprendre ce qui s'est passé, quoi que ce soit. Et là, on dirait les premiers rapports. Alors, je le suivais sur Instagram en plus. Bah, techniquement, je le suis toujours, mais bon. Je vois qu'il s'est possiblement noyé dans son jacuzzi et tout. Et là, tout de suite, l'image me revient, me hante limite. Je me dis que 2 jours avant, je crois à peu près, est-ce qu'il finira par être son dernier poste, c'est une photo de lui dans son jacuzzi. Je me dis, merde, à croire. Enfin, y a des choses comme ça qui sont un peu... je dirais pas prédestiné, mais l'ironie du sort, je saurais pas trop comment le décrire, comment le nommer, mais c'est vraiment extrêmement bizarre. 2 jours avant, je sais qu'il y avait des histoires de lumière et tout ça, donc il était parti dans son délire de... Il était fan de Batman et il était un peu dans son délire de parler de Mattman, voilà, il créait son propre super-héros en référence à Batman, qui était son super-héros favori. Et je me suis dit, oh putain, Mattman, ça, ouais, bref, ouais, je comprenais pas trop, je me dis, moi, c'est un bon délire, quoi. Je le vois encore avec sa photo avec son père, 2-3 jours avant, et la dernière photo, donc il poste enfin, littéralement lui dans un jacuzzi, quoi. Est-ce que ça pourrait... est-ce qu'on peut rêver d'une fin, entre guillemets, plus sarcastique que ça? C'est... Voilà. C'est étonnamment étrange. Donc bon, finalement, ça, c'est presque du cancan, parce que, bon, forcément... On se demande, ah mais comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. C'est toujours un peu étrange, comme une sensation étrange. Maintenant, avant toute chose, pour tenter un petit peu de respecter sa volonté, sa dernière volonté, c'est pas la dernière qu'il ait forcément émise, Mathieu Perry a toujours dit que, bon déjà que le jour où il mourrait, personne ne serait surpris, déjà. Bon, ben, tu t'es trompé, Mathieu. Et que, par-dessus tout, même s'il sait très bien que c'est la première chose pour laquelle on va le mentionner, il souhaitait qu'on se souvienne de lui avant tout pour ses engagements. Son engagement envers la sobriété, envers les dépendants, quels qu'ils soient, les alcooliques, les dépendants aux opioïdes, c'est un homme qui aura vécu toute sa vie dans le spectre, le démon de la dépendance, aura tout fait pour s'en sortir avant de replonger des dizaines et des dizaines de fois. Et disons que ce qui a pu résonner est en un sens la chose pour laquelle je suis entre guillemets quand même heureux, c'est que je pense pas en avoir parlé hein, dans le podcast, si je radote un peu je m'excuse, mais entre guillemets je suis heureux, j'ai eu la chance d'avoir le déclic et surtout le temps pendant les vacances d'été cette année de lire son autobiographie. Je me suis dit tiens, j'avais envie de la lire, de toute façon l'autobiographie est sortie il y a un an, mois d'octobre, novembre 2022, et je me suis dit que j'allais le lire de toute manière. Et cet été, j'étais en pleine recherche, j'aurais pu continuer à lire un bouquin que j'avais déjà pris, en plus que j'avais déjà commencé, mais là, bizarrement, je me suis dit, tiens, c'est le moment, j'ai envie de le lire. J'ai fait ma tapette, je l'ai lu en version française. Mais je vais aller dire, c'est une bonne traduction, c'est bon, c'est pas grave, il n'y a pas ça. Limite, je l'ai quand même lu avec ma voix dans sa tête, sa voix dans ma tête, c'est mieux dans ce sens-là. Et disons que c'est un livre qui a permis non seulement évidemment de retracer en filigrane les grandes années Friends. Ça a été étrange d'ailleurs de le voir parler de la manière dont il l'a ressenti en finalité, comme limite un fantôme qui traverse ces années-là, sachant que c'était certainement les meilleures années de sa vie, mais n'ayant pas les clés pour pouvoir en profiter pleinement. Et ce genre de choses, je trouve qu'à la fin, qui résonne énormément pour nous tous, de manière générale, pour moi peut-être un peu en particulier, parce qu'en finalité, son décès ou autre, bah, ça nous remet dans le contexte juste qu'on est tous des êtres humains, des êtres mortels, qu'on est tous amenés à partir un jour, qu'on est tous amenés à partir plus ou moins tôt. Ça, c'est le grand drame. Mais de manière parfois ironique ou non, je ne sais pas. Et forcément, je pense que le moment de ce genre de départ nous remet un peu en face de notre propre départ. Et ça nous fait peut-être, j'utilise peut-être un peu mon cas comme une généralité, un petit peu à tort et à travers, mais je pense que ça nous remet un petit peu en face aussi des réalités, et des vraies priorités aussi. Mais en tout cas, d'avoir lu ce bouquin, d'avoir lu son combat, ses chutes, ses rechutes, ses retours, ses reprises, et de toujours garder cet espoir. Je vais dire des bêtises parce que là, je vous le cite de tête, mais ça doit être vraiment dans les premières pages, si ce n'est pas sur la première page, mais en gros, bonjour, je m'appelle Matthew Perry et je devrais être mort. Il y a vraiment le spectre de la mort qui le suit tout au long du bouquin. Se dire que dès son plus jeune âge, il a commencé sans le vouloir à s'auto-détruire, s'auto-saborder, et qu'en finalité, il aura quand même réussi à avoir des succès. Mine de rien. Et de se dire qu'il n'était pas le personnage qu'on a vu pendant 10 ans, même s'il l'a été en grande partie. Faut quand même toujours faire bien le distinguo entre l'image renvoyée et la personne derrière. En finalité, mine de rien quand même, ce qui m'a fait bizarre, donc il y a eu l'annonce de sa mort et littéralement TFX en a profité direct pour dire on diffusera Friends toute la journée jusqu'à 1h du matin en hommage. Et bon, Marie-Jane n'est pas plus que ça, chamboulée, elle a pas grand-chose qui la chamboule. Quand je vous dis c'était le premier jour de mes vacances, évidemment, premier jour de vacances, ça rime avec vaisselle. Ah oui, ça, vous comprenez pas ma vie. Vous savez pas pourquoi je fais aussi peu de vidéos en ce moment. C'est parce que je passe beaucoup de temps à faire du ménage. Et pourtant, ça ne se voit toujours pas. C'est un truc de fou. Mais bon, quand on est un mari aimant et qu'on tente d'être le meilleur supporter possible, malheureusement, c'est comme ça que ça finit. Donc j'ai commencé et j'ai passé mon après-midi à faire de la vaisselle. Et littéralement, mon après-midi à faire de la vaisselle. Et dans la cuisine, j'ai pas la télé. Ce que j'ai fini, c'est que j'ai un tout petit rebord devant l'évier. Et je me suis dit, je peux pas ne pas le faire. Et donc, j'ai mis Friends. J'ai mis TFX. Et j'ai regardé TFX tout en faisant la vaisselle. Et là, c'est étrange parce que je m'attendais presque. En fait, au moment où j'ai lancé un épisode, bon, l'épisode était déjà en route. Au moment où je mets TFX, je m'attends à avoir un énorme coup de poignard dans le cœur au moment où je verrai Matthew Perry, et j'ai presque envie de dire que ça a été pendant une demi-seconde le cas. Mais tout de suite, bizarrement, enveloppé par une sensation de confort et de bien-être. Et je me disais, putain, c'est bizarre, en fait. Et je regardais l'épisode que je connaissais par cœur, et en plus, je pense que c'est un de mes préférés, c'est celui où Chandler et Ross vont dans le Vermont, parce que Chandler a loué une chambre d'hôtel et peut pas se la faire rembourser. Donc il part avec Ross et Ross lui explique comment récupérer le plus possible de pognon en piquant tous les trucs de l'hôtel. Ce qui est assez amusant parce que vraiment c'est un de mes épisodes préférés. Je trouve David Schwimmer dedans absolument excellent. Et c'est quand même une bonne chose, c'est qu'il est en duo avec Chandler, donc avec Matthew Perry. Et bizarrement, cette série doudou, vraiment par excellence, on connaît tous les ressorts et tout. Et là, elle se déroule et finalement, ça va. Je me sens bien. Je me sens pas. J'y pense. Je pense forcément à Matthew Perry, je pense à son décès et tout. Mais le flow de l'épisode que je connais si bien continue de se dérouler et tout va bien. Fin de l'épisode, avant d'enchaîner sur un autre. Écran noir, en hommage à Matthew Perry. Et là, ou par contre là, le coup de poignard il est là, il revient un petit peu. En mode, Matthew Perry nous a quittés, effectivement. Là, retour de la tristesse, ça fait mal au cœur. Et puis, l'épisode suivant démarre, et de nouveau ça s'apaise. À ce moment-là, je me suis rendu compte de quelque chose. Alors déjà, premièrement, je pense que la mort de Matthew Perry m'affecte. Je ne m'auto-proclame pas plus grand fan de Matthew Perry. J'ai vraiment très peu, j'ai presque honte de le dire, mais j'ai très peu regardé son travail en dehors de Friends. J'ai vu forcément Mes voisins le tueur. Le premier, génial. De mémoire encore, hein. Ça fait 20 ans que je ne l'ai pas revu. Hein. Premier génial, le 2, je me souviens de m'être ennuyé, c'était une monstruosité, je ne comprenais pas l'intérêt de ce film, enfin, bref. J'étais tellement heureux quand il était dans 17 ans encore, 17 again, quand il jouait la version le vieux, entre guillemets, avant que, je ne sais plus, l'autre de High School Musical, le remplace et revienne la version jeune, Zac Efron, voilà, c'est revenu. J'avais aimé ce film. Alors, on voyait trop peu Matthew Perry, mais pour le peu qu'on le voyait, j'étais aux anges. J'avais commencé à regarder une série qui s'appelait Go Home, qui commençait à passer aux États-Unis. J'avais regardé le premier épisode aux États-Unis directement. J'étais plutôt content de moi. Hein, je regarde l'épisode sans sous-titre, nanana. Où il jouait, je crois que c'était un commentateur sportif ou quelque chose comme ça, qui devait faire face au décès de sa femme. Je n'ai vu que le pilote. Malheureusement, en fait, comme toujours, enfin, comme beaucoup de ces séries post-Friends, rares sont les projets dans lesquels il était engagé qui ont duré plus d'une saison. Les séries ont toujours été annulées. Donc c'est vrai que ça n'aide pas non plus. C'est un peu le syndrome Netflix à l'heure actuelle. C'est que quand ils vous annoncent une série, saison 1, que la série est en ligne depuis même pas 2 semaines, vous dites « Ouais, ben, je vais la regarder incessamment sous peu ». Et que la série est annulée directement et on vous annonce qu'il n'y aura pas de saison 2, bah vous ne démarrez jamais la saison 1. Bah là, malheureusement, pour beaucoup de projets de Matthew Perry, ça aura été le cas. C'est que ça ne marchait tout simplement pas. Ça ne marchait tout simplement pas parce que, je ne sais pas, il n'a pas eu de chance. C'était pas le bon timing ou autre, je ne saurais pas dire. Enfin bref, quoi qu'il en soit, à travers Friends, parce qu'évidemment, malheureusement, je suis obligé d'en parler parce que c'est, voilà... Friends est vraiment la série de ma génération. Voilà, ça a été celle j'ai découvert. Je sais même pas si on était peut-être déjà à la deuxième de rediffusion. Enfin, ça c'était au moment, la grande période où Friends était multi-rediffusé. Je l'ai découvert par hasard. J'allais chez un pote qui allait m'emmener au judo et il regardait Friends. C'était sur France 2. Je crois qu'on est en 97, début 97, si je dis pas de bêtises. Donc techniquement on est à la troisième saison, mais forcément là en France il n'y a que les deux premières saisons pour le moment. Je regarde ça vite fait, je n'ai pas trop compris ce que c'était, et en fait en finalité c'est quand ils ont commencé à le diffuser sur RTL9 du début où là j'ai commencé à suivre, et j'adorais ce tic d'RTL9. Ils faisaient pareil avec La Vie de Famille à l'époque, c'est qu'ils diffusaient la série, ils diffusaient tous les épisodes qu'ils avaient, c'était un par jour, je crois que c'était même, il me semble que même le week-end, si je dis pas de bêtises, bon, en tout cas du lundi au vendredi, c'était sûr. Et quand ils arrivaient au bout de ce qu'ils avaient, ils recommençaient du début. Et j'ai regardé comme ça, d'abord les deux mais rapidement, on est passé aux trois premières saisons. Je me souviendrai toute ma vie de ce fameux drame de dernier épisode de la troisième saison de Ross entre la chambre de Rachel et de Bonnie. Putain, j'ai failli oublier son prénom pendant une seconde. Et de Bonnie, et on dit laquelle va-t-il choisir ? Il ouvre la porte, on ne voit pas quelle porte il a choisi. Il rentre, il dit bonsoir. Fin. Et pendant un an et demi, à chaque fois on revenait à cet épisode, et l'épisode d'après, le lendemain, c'était le premier épisode de la première saison. Et on redémarrait la boucle. Il aura fallu attendre. Il aura fallu être extrêmement patient pour voir enfin le premier épisode de la quatrième saison. Il voit enfin. Mais qui avait-il choisi ? Enfin bref. C'était vraiment la période où on bouffait du Friends en veux-tu, en voilà. Même quand il n'y avait pas d'inédit, ça passait en boucle, en boucle, en boucle. Voilà. Et donc, ça a été quelque chose qui a fait partie de mon quotidien. Donc, j'avais là, j'avais à peu près 14 ans. Donc, quand j'ai découvert la série, imaginez-vous, j'ai 14 ans quand la série commence. J'ai 20 ans quand la série se termine. À peu de choses près. Ah, j'ai 19 ans. J'ai 19 ans, j'ai pas encore 20 ans techniquement. L'année de mes 20 ans, mais j'avais pas encore 20 ans. J'avais pas encore 20 ans, j'étais jeune. Donc c'est vraiment la série qui m'a suivi sur toute la fin de mon adolescence. Et c'est vraiment ces années charnières où on se développe, où on tente en tout cas de se développer une personnalité. Et là tout de suite, Matthew Perry, le personnage de Chandler Bing, résonne en moi parce que je me dis, mais putain, comme il m'était déjà arrivé de m'identifier complètement au personnage de Peter Parker, de la même manière, je me suis identifié au personnage de Chandler Bing, parce qu'on avait tellement de traits communs. Je me dis, mais putain, je suis pareil que lui, j'ai la loose avec les meufs, j'essaye de faire des vannes, mais en vérité, j'étais toujours dans le doute de moi-même, j'avais un manque de confiance en moi qui était énorme, je me prenais pour une grosse merde, j'essayais tant bien que mal, jamais été à son niveau humour, au niveau blague ou quoi que ce soit, mais je tentais en tout cas de m'inspirer de lui un maximum. Et il s'est passé deux choses en deux temps avec ce personnage, avec cette série de manière générale, mais surtout avec ce personnage de Chandler Bing et avec Matthew Perry de manière générale. C'est que à l'époque où les saisons en version française sont multi-rediffusées sur RTL9, je connais des épisodes par cœur, capable de les ressortir mot à mot, où là je prends vraiment les tics, les manières entre guillemets de Matthew Perry de Matthew Perry, les tics physiques de Matthew Perry et les tics vocaux d'Emmanuel Curtil, hein, donc la fameuse voix française de Matthew Perry et de Jim Carrey. Donc en français, je commence à me comporter comme Matthew Perry et à parler comme Emmanuel Curtil. Mais ce qui se trouve, c'est que au moment de la saison 5, on est en 99, on change d'appartement, on a le câble. Et je découvre Canal Jimmy. Et Canal Jimmy était les rois parce qu'eux avaient les épisodes inédits en avant-première en France. Tout simplement pour la simple et bonne raison qu'ils les diffusaient en version originale sous-titrée. Et c'est avec le bus qui passe et qui ne peut pas rentrer et qui bloque tout le monde. Chapeau les bus. Et donc, à ce moment-là, je découvre la cinquième saison en avant-première. À ce moment-là, c'était quand même un truc de fou en termes de délai parce que je découvre... Je découvre la saison 5 à peu près 6 mois avant qu'elle arrive en France, sur France 2, qui, eux, les diffusaient quand même assez rapidement. Et là, de manière simultanée, je redécouvre la série. Parce que pareil, après, ils rediffusent les premières saisons. Et là, je découvre les vraies blagues. Et là, je me rends compte que l'adaptation de Friends n'était pas toujours extrêmement bien dosée en termes de... c'était compliqué. Au niveau de certaines blagues, il fallait édulcorer, enfin, ce genre de choses. Je découvre les vraies voix de mes personnages favoris. Et là, je redécouvre Chandler Bing. Et là, à ce moment-là, double effet qui se coule. C'est que je me perfectionne en anglais grâce à Friends, mais fatalement, mon parler, mon phrasé anglais va se calquer sur mon personnage favori, dont je m'étais déjà un petit peu trop calqué en français. Et là, je me suis mis à parler anglais comme Matthew Perry. Voilà. Et encore maintenant, je pense que certains rythmes dans mes phrases quand je parle en anglais, c'est du Matthew Perry parce que j'ai appris Friends, j'ai appris l'anglais pardon avec Friends et le mimétisme en finalité a été total. C'est-à-dire que sur cette période-là, j'étais Chandler Bing en français comme en anglais. C'était indestructible à ce niveau-là. Il y a eu une telle identification que je le faisais déjà, mais je l'ai fait encore plus, me balader les mains dans les poches. Vous remarquerez, si vous ne l'avez pas fait, que Chandler se balade 9 dixièmes du temps, surtout beaucoup dans les premières saisons, peut-être un peu moins dans les dernières, mais Chandler était ce mec avec la démarche un peu nonchalante, les mains dans les poches parce qu'il ne savait pas où les mettre et j'étais exactement pareil que lui. Qu'est-ce que je fais de cette putain de main? Je ne sais pas quoi en faire. Comme une manière de se protéger, on mettait les mains dans les poches, les mains étaient au chaud et ça permettait de donner l'impression qu'on s'en foutait et que tout glissait sur nous alors que ce n'était pas le cas. L'identification était tellement forte qu'au moment de... au moment où on m'annonce que cet acteur que j'ai vraiment chéri, adulé, qui t'a offert presque un double techniquement, j'ai ressenti sa perte de 3 ou 4 niveaux différents. Je l'ai senti en mode, j'ai l'impression de perdre, comme le monde entier, de perdre un ami. Parce que voilà, je perds quelqu'un qui a été dans mon quotidien pendant plus de 10 ans. Parce qu'en finalité, hein, Friends est tellement rediffusé encore maintenant. Encore il y a quelques semaines, hein, avant même le décès, avec les enfants ou autres, on mange, il y a toujours le rituel. Et au moment où ils partent se brosser les dents, je switchais systématiquement sur TFX pour regarder la fin de l'épisode en cours. Parce que Friends est encore à l'heure actuelle une série qui, si elle a le malheur de passer sur une chaîne et que je peux regarder la chaîne, je vais mettre la chaîne et je vais regarder l'épisode. Alors que je connais l'épisode par cœur, il n'y a plus aucune surprise. Mais c'est le genre de choses que j'arrive à regarder en boucle, sans problème. Et là, en plus, ces dernières années, comme mes visionnages se sont raréfiés, dès que j'en ai l'occasion, je loupe pas une occasion de pouvoir mater un épisode. Même si c'est les 10 dernières minutes de l'épisode, je m'en fous. Je rigole toujours autant. C'est un vrai bonheur. Et donc, j'ai l'impression d'avoir perdu un ami. J'ai l'impression d'avoir perdu un grand frère. D'un autre côté, parce que bam, au sein de ma fratrie, je suis l'aîné. Donc, je pense que mes frangins ne seraient pas forcément d'accord avec moi, mais j'ai envie de dire, je suis l'aîné, je suis censé être l'exemple. Pas forcément, je ne veux pas dire forcément l'exemple à suivre, attention. Mais bon, c'était moi qui montrais le chemin, quelque part. Bah, grâce à Friends, grâce à Chandler était dans ma tête beaucoup plus vieux que moi, forcément. À cette époque, il a 10 ans de plus que moi, Chandler. Chandler était un peu comme le grand frère qui me montrait la prochaine étape que moi j'allais vivre. Quand tu quitteras la maison de tes parents, quand tu te mettras en ménage. Au départ, je pensais même pas pouvoir me mettre en ménage tout de suite. Hein. J'étais vraiment persuadé que l'étape après chez les parents, ce serait une colocation avec mon meilleur ami. Je ne le voyais que comme ça. Je ne pouvais pas le voir autrement. Chandler l'avait fait comme ça. Ça avait plutôt bien fonctionné pour lui. J'ai sauté cette étape. J'ai été plus rapide à m'installer et à me caser que Chandler. Soit. Soit. Donc, j'ai eu l'impression de perdre un ami, de perdre mon grand frère. Et sur une dernière strate, c'est peut-être le pire, c'est que je me suis tellement identifié à lui que quelque part j'ai aussi perdu une partie de moi, parce que fatalement une partie de ma personnalité c'est Chandler Bing, donc c'est Matthew Perry. Je fais l'amalgame entre les deux parce que je pense que Matthew Perry a tellement insufflé de lui en Chandler Bing de toute manière que l'un et l'autre sont presque indissociables. Il le disait lui-même, la seule différence c'est que Chandler lui a su beaucoup mieux évoluer, mûrir que son interprète dans la vraie vie. Donc c'est la petite note douce amère, c'est que son personnage aura réussi à finir sa vie heureux, comblé, marié, apaisé, avec des enfants, ce que lui n'aura jamais eu l'occasion de connaître. Ça me rend triste pour lui fatalement. Donc cette perte-là, voilà, était, cette perte-là est assez compliquée. Parce que vraiment, c'est, cette perte fonctionne à tellement de niveaux différents que voilà. Cette partie d'avoir l'impression d'avoir une partie de soi-même qui part avec, c'est extrêmement bizarre. Et je dois l'avouer, je suis trop un angoissé de la vie. Je pense beaucoup à la mort. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Mais c'est toujours l'impression de ce compte à rebours. Je me dis, heureusement, je suis le genre de personne, heureusement, qui ne connaît pas la date de sa mort, parce que à la minute où on m'indiquerait l'heure de mon trépas, il pourrait me rester 50 ans à vivre, que j'arrêterais de vivre à ce moment-là. Tiens, tu meurs dans 50 ans, à telle date, je pense qu'à ce moment-là, j'arrête de vivre tout de suite, parce que je vivrai avec ce compte à rebours en tête. C'est juste quelque chose d'assez horrible. Bon, ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler sur moi-même. Bon, peut-être que j'allais voir un psy. Ce serait pas une... Hein, tout le monde va me dire, genre, mais tu es fou. Oui, va voir un psy, putain. Mais bon, j'apprends à calmer mes névroses. Hein, c'est un travail sur soi, voilà. Et pour le moment, je ne dépense pas d'argent là-dedans. En tout cas, l'âge avançant, ben forcément, hein, je m'approche de la quarantaine. Hein, c'est forcément que on pense plus à la fin qu'au début, fatalement. Donc bon, ça c'est le genre de mort qui nous ramène un petit peu aux choses réelles. Mais j'aimerais plus ou moins finir sur une bonne note. Alors je suis désolé pour les bruits, hein. je suis en train de me balader avec tout le stock de Mary Jane qu'elle a claqué dans la bagnole hier et qu'elle a pas déchargé. Donc je suis parti ce matin au bureau aussi vite que possible et puis je me retrouve avec plein de caisses. C'est chouette, je sens que je vais être en atelier déchargeage de voiture quand je vais arriver à la maison. Bref, j'ai pas épousé une Monica, moi, malheureusement. À ce niveau là j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus Monica, mais bon. La chose qui me réconforte un peu en finalité, et donc c'est pour revenir au moment où j'étais en train de regarder Friends, en train de faire ma vaisselle le jour de sa mort, où j'étais vraiment extrêmement triste. Quand je repensais à Matthew Perry, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux, en fait. L'avantage, entre guillemets, ce qui fait autant mal au cul que c'est un avantage, je vais vous expliquer pourquoi, à mon humble avis. Friends est terminé l'année prochaine. Friends se sera terminé il y a 20 ans. C'est un truc de fou. Déjà, ces 20 ans-là, je les ai pas vus passer. Ça, c'est déjà une calamité. Dites-vous que là, on vient plus ou moins, à peu de choses près, de faire deux fois la durée de Friends. Voilà. Friends a duré 10 ans. Bah, il y a déjà eu deux fois Friends qui se sont écoulés depuis la fin de la série. Donc, l'année prochaine, la série fêtera ses 30 ans d'existence. Et ça fera déjà 20 ans que la série s'est arrêtée. Ce qui est drôle, parce que la série, quelque part, pour moi, est toujours aussi actuelle. Surtout, alors, en plus, surtout depuis les magnifiques remasters en full HD, Friends est définitivement rentré dans le 21e siècle à ce niveau-là, en 16:9, en ultra bonne qualité. La série ne fait même pas vieille en termes de qualité d'image ou quoi que ce soit, c'est un truc de fou. Ça va certainement participer à son intemporalité dans les années qui vont venir. Mais donc Friends s'est terminé il y a 20 ans. Les comédiens, nos 6 amis, nos 6 friends, ont continué à évoluer. Certains ont mieux rebondi que d'autres. Courtney Cox en est plutôt bien sorti de manière générale. Même si physiquement, malheureusement, le problème hollywoodien pour les femmes est... c'est un peu montré un peu trop prégnant avec elle et la pauvre s'est quand même littéralement défigurée pour tenter de rester jeune sans grand succès. Maintenant, c'est vrai qu'elle fait quand même plutôt peur. Bon, heureusement, elle a pu revenir un peu en arrière sur certaines choses, mais bon, voilà. Elle n'aura pas su vieillir naturellement et ça fait un petit peu mal. Mais donc, ils ont vieilli, ils ont pris de la bouteille. Voilà, on voit Matt LeBlanc maintenant, il a un bon gros ventre, hein, et c'est un bon gros papa, il est grisonnant. Alors, ce qui est chose amusante, c'est qu'il grisonnait déjà à l'époque de Friends. Il s'est fait teindre les cheveux à partir de la saison 1 déjà directement. Mais donc, ce qui fait que quand on voit maintenant les acteurs, on voit plus leurs personnages. Ils sont devenus tellement éloignés de leurs personnages que les acteurs, pour moi, ne sont plus leurs personnages. Leurs personnages continuent de vivre. Et Friends sont dans cette bulle magique, temporelle de 10 ans, cette boucle parfaite qui se termine sur le plan de l'appartement du numéro 17. 17 ? Oh, n'importe quoi. Ça, c'était leur première saison. Bref, un 17. Oh, je sais plus. Enfin, bref. Tout pour vous dire que cette boucle parfaite qui s'arrête sur la porte violette côté intérieur pour en revenir au Central Perk avec Monica qui dit il n'y a rien d'autre à dire, c'est un mec avec qui je sors. Voilà, la boucle parfaite de terminer la série et de recommencer tout de suite derrière. Nos six friends sont enfermés dans cette boucle temporelle, ce qui fait que les personnages ont leur vie à part des comédiens. Et c'est ce que j'ai ressenti en regardant Friends, en me disant je suis orphelin de Matthew Perry, je suis orphelin de Chandler Bing. Mais en vérité, ce n'est pas le cas. Matthew Perry, malheureusement, est effectivement décédé en 2023. Et ce que j'ai découvert en regardant Friends, en 2023, le jour de la mort de Matthew Perry, c'est que Chandler Bing était encore là. Chandler Bing est à l'écran. Chandler Bing vit sa meilleure vie. Et on le sait, il va passer par tout un stade de développement pendant les 10 années de la série. Et ses blagues me font toujours autant rire. Son timing comique, son comique gestuel me fait également énormément rire. Et il est encore là, il est présent. Dès que j'en ai besoin, je lance Friends et il est là. Donc, il y a un petit peu cette dissonance, cette déconnexion quelque part. Et Dieu que ça fait mal de se dire que ça y est, on vient d'entamer un cycle, c'est-à-dire que Matthew Perry est le premier, les autres suivront, j'espère le plus tard possible évidemment. Mais là maintenant, on est vraiment dans une époque où ça y est, le cast de Friends n'est plus complet. Donc je continue de remercier le fait qu'on ait pu avoir cette fameuse réunion en 2021. On a quand même la chance d'avoir cette réunion avec encore Matthew Perry parmi nous, même si déjà à l'époque, il faut dire, il nous a fait sacrément peur. On s'est dit ouf. Et c'est con, hein, comme on se disait à ce moment-là, déjà de manière complètement déconnectée, en voyant ce gars qui ressemblait vaguement à Chandler Bing, se dire putain, qu'est-ce qu'il a pris dans la gueule. Espérons qu'il aille bien, tout en se disant bah, c'est vrai qu'on ne serait pas surpris si on nous annonçait sa mort demain. Un, il aura quand même réussi à nous surprendre, ça aura quand même réussi à nous faire mal. Deux, on aura eu la chance de le voir lui aussi, même si c'était très rapidement James Michael Tyler, notre fameux Gunther. Et j'ai fait une phrase tellement longue que je ne sais même plus où je voulais en venir pour vous dire. Mais voilà, on est dans une période que je voulais dire que ça y est, maintenant les Friends ne sont plus 6. Ils vont finir par partir les uns derrière les autres, mais Friends en lui-même restera toujours là. Et quelque part, c'est ce qui compte. Et finalité, ça, c'est un peu le leitmotiv de ce qui jalonne aussi ma vie. Se dire, essayons de profiter du temps qu'on a, parce qu'on ne sait jamais combien de temps il nous reste. Peut-être essayer d'arrêter de se prendre la tête sur des conneries, des vicissitudes de merde, évidemment. Mais se dire, essayons d'être bienveillants les uns envers les autres. Parce qu'avec un peu de chance, après tout ça, parce qu'on n'est pas éternel, mais avec un peu de chance, on arrivera à rester en vie. Alors, on n'est pas des stars, donc malheureusement, après notre départ, après nos enfants, nos petits-enfants se souviendront peut-être encore un peu de nous, mais dès la génération d'après, on disparaîtra quelque peu. Mais pour le temps qu'on a à vivre, que ce soit physiquement ou après dans l'esprit des gens qui nous ont aimés de notre vivant, essayons d'être la meilleure version de nous-mêmes, essayons de rester en vie de cette manière-là et de la plus belle des manières possibles. Et voilà quoi. j'ai tenté maladroitement d'être un peu philosophe sur la fin, c'est un peu raté, mais je me dis que si on fait le bien, ou en tout cas si on apporte du bonheur aux gens, ça nous permettra d'acquérir un peu d'immortalité sur le chemin. Et quelque part, ce serait pas plus mal. Voilà, je pense que je vous ai dit assez de conneries sur ces 45 minutes. Je vais m'arrêter là. Si vous avez le courage, comme d'habitude, de m'écouter jusque-là, je vous remercie grandement. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt avec, je vous le promets, un sujet plus sympa et plus joyeux que ça. Des bisous à vous, à très vite.